voix lue. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Hélène Renard.
Madame, Monsieur, bonjour, merci d'avoir choisi Canal Academy. Je vous propose dans cette émission de réfléchir sur Charlemagne en tant que grand Européen avec un texte écrit par Emmanuel Leroy-Ladurie de l'Académie des sciences morales et politiques, un texte qu'il avait écrit à la suite de la parution du livre de Jean Favier sur Charlemagne, Jean Favier étant membre, lui, de l'Académie des inscriptions et belles lettres. C'est le comédien Fernand Guillot qui lit pour nous ce texte d'Emmanuel Leroy-Ladurie.
Charlemagne est né, semble-t-il, en 742, date que, tout bien réfléchi, Favier préfère à 747, année de naissance qu'avaient retenue divers auteurs. Le bébé Charles est plus ou moins illégitime et sa filiation ne sera rendue acceptable que quelques années après sa venue au monde grâce au mariage providentiel entre ses père et mère, Pépin et Berthe. Ce bipatardise originel est peut-être l'une des raisons de l'embrouillamini 742-747 qui entoure parfois la date de naissance du grand homme. L'historiographie aux ordres, comme elle l'était à l'époque, ayant préféré émettre quelques rideaux de fumée quant à la chronologie de l'engendrement pas toujours honorable de celui qui deviendra le premier grand empereur occidental. L'initial statut douteux de l'enfant Charles a peut-être fait négliger sa première éducation. Et, en dépit d'une prodigieuse intelligence, il lui faudra apprendre dans la suite de son existence, sinon à écrire, Charles n'y parviendra jamais de manière tout à fait correcte, du moins à se lester du bagage idéologique oral qui lui permettra de manipuler avec beaucoup de maîtrise les idées, la culture et la langue latine de son temps. À tout moment de la journée, au lit comme au bain, Charles se fait lire des livres. Son maître à penser, Alcuin, saisit le prétexte de dialogues érudits et informels pour lui infliger de véritables leçons particulières. Disons qu'après quelques décennies de tels exercices, en compagnie des meilleurs maîtres, le savoir de Charles demeurait inférieur à celui des clercs, mais bien supérieur au bagage intellectuel moyen dont disposaient la plupart des laïcs, fussent-ils membres de la plus haute élite du pouvoir. Les connaissances géographiques du grand Charles concernait cependant davantage la Gaule de l'extrême nord et la Germanie que les territoires français classiques situés au sud de l'Oise et de la Marne. Quant à Paris, au regard carolin, ce n'est guère qu'une bourgade et notre souverain la regarderait volontiers comme un simple village tout au plus, si n'était l'abbaye de Saint-Denis tant aimée des hommes de pouvoir. Mais en dépit de quelques lacunes dont sont affligées les connaissances de Charles quant aux diverses régions de son immense état, rappelons qu'à l'apogée de sa carrière impériale, il contrôle de près ou de loin, selon le cas, un ensemble de territoires qui fait penser grosso modo à la communauté européenne de 1955-1960, soit la France, l'Allemagne, l'Italie du Nord surtout, le Benelux, et puis en additif ce qu'on appellera plus tard l'Autriche-Hongrie, en dépit d'inévitables insuffisances d'appréciation régionale. Donc Charles est quand même une espèce de surhomme génial. On n'ose pas dire un Superman, à la manière des grands maîtres de l'Empire romain des premiers siècles, de ces Antonins à la Marc Aurèle qu'on trouvait guerroyants, défendant les frontières de leur impérium eurasiatique, à l'est comme à l'ouest, contre les Parthes, contre les Germaniques. L'espace carolingien, même amputé des provinces grecques, a presque autant d'amplitude que son prédécesseur romain, car très distendu vers le nord-est, vers les terres allemandes, source de tracas continuel pour la barbe fleurie. Pour nous en tenir aux seules années 773-787, disant que, guerroyant ou non, selon la conjoncture, Charles est en Saxe en 773, en Italie puis en Rhénanie en 774, en Saxe et en Espagne en 778, à Worms et en Italie en 786-787. Au cours de l'année 811 encore, quatre armées carolingiennes sont en bataille sur l'Elbe, le Danube, en Bretagne et en Espagne. Cependant que l'empereur en personne organise contre les Vikings la défense des estuaires, ceux de la Seine et d'autres fleuves. Charles est fort de son hérédité lignagère, Pépin Charles Martel, et de son sacre papal également, innovation essentielle, reprise de la tradition biblique de David, le roi hiérarchique et législateur. Ce rite sacralisant sera récupéré ensuite par toutes les dynasties d'Europe, Capet, Habsbourg, Tudor, etc. Cela dit, Charles sait faire preuve de cruauté, insupportable au gré de nos critères contemporains. Quand l'occasion ou ce qu'il croit être la nécessité s'en présente, les conjurés thuringiens ont les yeux crevés. Les révoltés de Saxe sont mis à mort. Les exécutions capitales par milliers doivent dissuader en principe d'éventuels imitateurs. L'œuvre de Charlemagne en tant que telle ne lui a survécu qu'assez peu. Dès la fin du Xe siècle, l'Empire devient essentiellement germanique et la France, Francia Occidentalis, fait dorénavant bande à part sous l'égide de l'usurpateur Hugues Capet, suivi par une liste interminable de successeurs. L'analyse de Pirenne demeure pourtant valable, qui évoque de façon magistrale le coup de cimeterre islamique morcelant la Méditerranée en un nord chrétien et un sud musulman. Cependant que beaucoup plus tard, l'immigration venue du Maghreb et d'ailleurs restituera à l'islam sur nos territoires une petite partie des positions qu'il avait totalement perdues depuis la bataille de Poitiers en 732. Charlemagne, pour sa part, aura pourtant de temps à autre des prolongateurs qui tenteront à nouveau d'unifier l'Europe par le biais d'une fragile autorité centrale. La liste est courte. D'abord, l'excellent Charles Quint, mis en échec par François Ier puis Henri II. Ensuite, Napoléon, victime de sa propre mégalomanie. Et enfin, ô horreur, Hitler et Staline, celui-ci pour une moitié d'Europe uniquement orientale. Charlemagne n'est pourtant pas étranger non plus à l'autre idéal européen, nettement plus séduisant, au terme duquel l'union est à rechercher dans le cadre d'un consensus librement accepté. Les hommes importants à cette perspective s'appellent Sully, premier des grands Européens, l'abbé de Saint-Pierre au XVIIIe siècle, Victor Hugo, et puis Aristide Briand, que suivra 20 ans plus tard l'inoubliable trio Schumann-Gasperi-Adenauer. Et enfin, les duos illustres de Gaulle-Adenauer, Giscard-Schmitt Kohl, Mitterrand. Chaque fois, c'est Charlemagne en deux personnes, mais avec l'Angleterre en supplément, comme la cerise sur le gâteau.
Remercions Emmanuel Leroy Ladurie de l'Académie des sciences morales et politiques qui nous a aimablement autorisé à enregistrer ce texte lu par Fernand Guillot, un texte qu'il avait initialement fait paraître dans le journal Le Figaro le 24 septembre 1999. Et l'intégralité de ce texte peut être lue sur le site de l'Académie des sciences morales et politiques www.asmp.fr. Merci de votre écoute.